reçois. Vous êtes bien sûr IDFM Radio, toute la culture que j'aime. Alors aujourd'hui, trois invités. Nous allons parler d'une exposition d'un artiste qui s'appelle David Clairbout et c'est au musée de l'Orangerie à Paris. Vous verrez, c'est très intéressant parce que c'est juste avant les Nymphéas de Claude Monet. Ensuite, nous allons parler d'une exposition monumentale à la Grande Halle de la Villette, Into the Light, avec toutes les explications. Et puis, nous irons au théâtre avec la comédie qui vient de remporter le Molière de la meilleure comédie, c'est The Loop au théâtre des Béliers. Voilà, tout un programme. Mais avant cela, nous écoutons Electric Light Orchestra, Last Train to London.
They're actually there, you know.
It's 9:29, 9:29, Backstreet Big City. The sun was going down, there was music all around. That's alright. It was one of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there, there was music in the air. I should have been away. I knew I'd have to say, last train to London, just heading out. Last train to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really wanna be with you. And the music play on. That's alright. Yeah, you were right, you're wrong. Looking like you were the only one around. I had to be with you. Nothing else that I could do. I should have been away, but I knew I'd have to stay. Last train to London, just heading. Last train to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really wanna be with you. Let the music play on down the line tonight. I didn't realize the love was in your eyes. Really should have gone. The love went on and on. Last train to London, just heading out. Last train to London,
last train to London,
just leave the town. But I really want to tonight to last forever. I really want tonight to
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous venons d'entendre Electric Light Orchestra et je reçois Sophie Éloi. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous êtes commissaire de l'exposition de David Clairbout au musée de l'Orangerie à Paris et nous allons parler ensemble de cette formidable exposition au fameux musée hein, de l'Orangerie, toujours dans ma quête un petit peu des artistes à découvrir. Alors David Clairbout est un artiste vidéaste, photographe, un plasticien belge âgé de 55 ans, artiste majeur de la scène contemporaine qui a exposé dans une multitude de musées, hein, de lieux artistiques très importants. Et vous êtes donc la commissaire de cette exposition. Alors première question, donc ces œuvres sont exposées actuellement et jusqu'au 9 juin au musée de l'Orangerie. Le fait qu'il soit exposé juste avant les Nymphéas de Claude Monet est un fait exprès. Voilà, les deux univers se correspondent d'après vous?
Oui, alors en fait cette exposition, enfin cette petite exposition consacrée à David Clairbout prend place dans une grande série que nous avons commencé en 2018 et qui est consacré à des contrepoints au Nymphéa de Claude Monet, puisque cette œuvre vraiment très importante continue aujourd'hui à avoir une très grande importance pour les artistes contemporains qui continuent à la regarder comme quelque chose de vraiment très porteur pour leur création à eux aussi. Et donc, aujourd'hui, on en est à la 15e exposition de ce type, Contrepoint. Et avec David Clairbout, on a préparé quelque chose qui prend place, comme d'habitude en fait, dans la petite salle ovale qui se trouve avant les Nymphéas et qu'on appelle le Pronaos, et puis dans une salle entièrement dédiée à l'art contemporain qui est au sous-sol du musée. Donc en fait, il y a cette proximité très forte avec l'œuvre de Claude Monet, et ses regards contemporains sont à la fois nous permettent de regarder différemment et l'œuvre de l'artiste en question et les Nymphéas nous permettent aussi de voir en quoi il y a des préoccupations absolument communes entre Monet et des artistes d'aujourd'hui. Et avec David, enfin, au fil des discussions que nous avons eues ensemble, parce que c'était un projet qui a mis très longtemps à être élaboré en raison des aléas liés à la pandémie, etc. Donc en fait, avec David, dont l'activité principale est quand même la vidéo, nous avons décidé de montrer trois films en bas dans la salle qui est aveugle et qui permet donc ce genre de présentation, et puis des dessins dans la salle qui précède les Nymphéas.
Oui. Son travail est sur la, en tout cas le travail présenté là, hein, le printemps lentement, travaille sur la nature, mais également sur la durée. Et est-ce que c'est un peu une pause en matière de est-ce que c'est pas un peu une pause méditative d'aller contempler ses œuvres?
Oui, tout à fait. C'est au centre du travail de David Clairbout qui en fait vient du dessin et de la peinture. Il a eu une formation assez traditionnelle et il s'est beaucoup intéressé et il s'intéresse toujours à la perception de la durée. Et c'est vraiment ce qui est central pour lui. Donc, bien évidemment, La vidéo s'est imposée à lui comme un moyen de travailler cette question, et une forme de vidéo ou qui n'est pas centrée sur l'action, mais plutôt sur le passage du temps, sur la contemplation, sur l'observation très aiguë de micro événements en fait. Et c'est pour ça qu'on montre une vidéo de 1996, donc qui est une pièce extrêmement ancienne dans le travail de David Clairbout dans la salle contemporaine. Cette pièce qui s'intitule Baum, ce qui veut dire arbre en flamand, consiste en un plan fixe sur un arbre dont on voit les branches et le feuillage bouger dans l'air, et cela nous oblige à nous intéresser avec beaucoup d'acuité finalement à quelque chose qui est extrêmement ténu et qui est juste la vie de cet arbre dans l'atmosphère qui l'entoure.
Oui, alors cette vidéo, hein, Boom, qui fait quelques minutes, hein, 15 ou 18 minutes, finalement, on voit justement cet arbre et les feuillages dans le vent. Je crois que c'est un condensé de 12 heures, finalement, non? L'action se passe sur à peu près 12
non,
heures.
Non, alors là, en l'occurrence, Boom, qui est cette pièce de 1996, c'est une boucle d'un peu plus d'un quart d'heure.
Oui.
Mais c'est le début, c'est le tout début de cette réflexion vidéo sur le temps et la durée. Et donc, en fait, c'est en quelque sorte l'ancêtre dans l'œuvre de Claire Baut des deux autres pièces qui sont montrées, et en particulier de Backward Growing Tree, qui est une vidéo beaucoup plus récente, hein, de 2023, mais qui elle a une durée gigantesque de 5 ans. En fait, il s'agit de montrer à nouveau un arbre isolé dans la campagne. On ne voit rien, aucun élément dans le paysage qui pourrait nous donner le moindre indice de l'endroit où se trouve cet arbre et de le situer en fait. Et cet arbre que l'on prend à un moment qui est le nôtre va retourner en 5 ans à son état de départ finalement, c'est-à-dire au moment où deux personnes vont le planter à cet endroit-là. Et on ne le perçoit pratiquement pas, puisque il ne se passe rien que le passage du temps, et que le temps qu'il fait passe du beau au plus vieux, par exemple, eh bien on ne se rend pas compte que c'est que le temps va dans un sens et non pas à rebours. Donc cela induit une forme de trouble très fort finalement sur ce que c'est que l'image et ce qu'elle nous dit.
Oui, puisque finalement, tout à fait, l'arbre se développe à rebours, hein, dans sa vidéo, mais nous, on ne s'en rend pas compte, donc on ne sait plus si on est dans le passé ou dans le futur.
Alors, on le saura un petit peu au terme de l'exposition, puisque nous serons allés de mars à juin, et l'arbre, lui, sera allé de mars à novembre, en fait. Donc, la faille entre notre temps qui va obligatoirement de l'avant et le temps de l'arbre du film qui, lui, retourne à son origine, cette faille va s'agrandir pendant le déroulement de l'exposition.
Oui, donc un travail vraiment très intéressant sur le temps, sur la perception, sur la durée, hein, par David Clairbout au Musée de l'Orangerie. Excusez-moi, il y a également la vidéo Bird Cage, la volière, qui nous surprend.
Oui, qui nous surprend parce que c'est une pièce qui est un petit peu différente. des deux autres, puisqu'il s'y passe quelque chose, si l'on peut dire, puisqu'une une sorte d'explosion détruit la très belle maison dans un jardin absolument idyllique. Mais en fait, après l'explosion, qui est fixe, eh bien, le temps se reconstitue et le cours des choses reprend le dessus. C'est un peu cela. Et cette pièce a été qui a été montrée déjà dans plusieurs institutions, avait été présentée l'an dernier à la Biennale dans le cadre de la Biennale de Venise, dans une exposition organisée par la fondation ukrainienne Pinchouk. Et en fait, les Ukrainiens et le public et les Ukrainiens se sont un peu approprié cette œuvre, en ce sens que qu'elle nous montre que plusieurs voies sont possibles, dont celle de la destruction, mais aussi celle de la reconstitution finalement.
Merci. Merci beaucoup. Vos explications sont très claires et très intéressantes. Je rappelle donc l'exposition de cet artiste, de David Clairbout, au musée de l'Orangerie, et c'est jusqu'au mois de juin, jusqu'au 9 juin, printemps lentement. Et l'exposition est juste avant les Nymphéas de Claude Monet à l'Orangerie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des visites guidée de cet artiste, de David, David Clairbout?
Il n'y a pas de visite guidée à proprement parler, mais dans les visites sur les visites du musée qui incluent les Nymphéas, les conférenciers disent bien sûr quelques mots sur ce contrepoint, comme ils le font pour tous les contrepoints qui ont lieu deux fois par an au musée, donc deux regards contemporains chaque année sur les Nymphéas, pour renouveler à chaque fois notre façon de les regarder.
Très bien. C'est une manière également de découvrir un artiste très important de la scène contemporaine que nos publics ne connaissent pas forcément. Hein, donc, je rappelle David Clairbout à l'Orangerie. Trois vidéos, six grands dessins. Huit. Et donc vous, Sophie Éloi, vous êtes, je rappelle, attachée de collection et commissaire de cette exposition au musée de l'Orangerie à Paris. Merci beaucoup.
Merci.
À très bientôt.
À bientôt.
D'aventure en rupture. J'ai connu des voitures, mais ma plus belle bavure, c'est de t'avoir laissé au fur et à mesure. Décacheter et te déshabiller au fur et à
Vous êtes toujours sur IDFM Radio, Agnès, pour toute la culture que j'aime. Et je reçois Mathieu Debé. Bonsoir.
Bonsoir. Enchanté.
Oui, pour parler de la fameuse exposition Into the Light à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 31 août. Mathieu Debé, vous êtes le directeur artistique de l'exposition, fondateur de Tétro, vous nous en direz un peu plus à ce sujet. Alors, Into the Light, c'est une exposition à grand spectacle sur la lumière. Alors, je dirais ça tombe bien parce que il y a eu justement de gros actualités hein, sur l'électricité en Espagne. Hein. Mais revenons à l'exposition. Donc, cette exposition avec des fresques en mouvement, des spirales lumineuses, des projections du cosmos, 12 artistes pour ces installations, pour 15 installations lumineuses sur 3000 mètres carrés, voilà, qui transforment la grande halle de la Villette en un parcours lumineux. Alors Mathieu Debé, donc cette exposition sur l'histoire de la lumière hein, est un parcours en 5 étapes finalement. Quelles sont ces étapes ?
C'est en effet un parcours en 5 étapes. On a réfléchi à ce projet d'exposition non pas comme une exposition classique, mais comme un véritable voyage. C'est un voyage spectaculaire, c'est un voyage narratif qui démarre par la réalité de la lumière du ciel. Donc le soleil qui est une étoile qui brille et qui fait vivre notre écosystème. Donc on a deux artistes qui théâtralisent cette lumière en fait céleste qui est le premier spectacle de l'humanité. Donc le soleil se couche, le soleil se lève, La canopée des étoiles, elle nous émerveille chaque mois d'août, mais elle brille tous les soirs. Donc on a Children of the Light, qui est un studio hollandais, et Guillaume Marmin, qui font état de cette réalité du ciel. Et donc on a vraiment voulu partir de l'origine de la lumière qui vient du ciel. Donc ça, c'était un premier temps qui nous amène vers un temps 2 qui est la lumière qui est apprivoisée par l'homme. C'est comment l'homme en fait a créé des sources lumineuses qui au départ étaient un simple feu de bois, puis une lampe à huile, puis des technologies extrêmement développées qui alimentent notre quotidien par des créations d'objets de lumière. Donc là, on a Carolina Alatek, une artiste designer polonaise qui nous présente un luminaire extraordinaire. C'est une lumière qui soigne, c'est une lumière qui fait du bien. On a Nonota, qui est un studio franco-japonais qui remet en perspective le mythe de Narcisse et voir comment la lumière permet le reflet. Et ils ont une installation très technologique, composé de miroirs qui met en lévitation le reflet. Donc c'est une pièce qui est très surprenante. Et ensuite, on a la question de la lumière qui sculpte l'espace, qui amène des architectures de lumière. Et pour cela, Olivier Ratti donc, nous invite dans un labyrinthe qui est composé de cloisons de lumière. Et c'est très, très déstabilisant. C'est très intéressant et son immersion dans l'espace est très surprenante.
Oui, ça, là vous parlez de negative space, hein. L'œuvre en chambre noire dans laquelle le visiteur peut avancer à tâtons. C'est celle-là dont vous parlez.
Oui, c'est celle-là parce qu'on est vraiment déstabilisé par le rapport à l'espace et c'est la lumière qui guide vraiment le chemin. C'est un moment de rapport à l'obscurité aussi, parce qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Et c'est ce qui est très intéressant et qui permet d'avoir un nouveau rapport en fait avec cette matière non matière qui nous accompagne au quotidien. Et c'est vrai que quand elle s'éteint, on est tous perdus et l'incident de lundi en Espagne l'a largement démontré. On a ensuite un temps du spectacle et du spectaculaire parce que le chapitre 3, le spectacle il est né au temps de l'Antiquité en pleine journée, donc avec la lumière du soleil, et puis ce spectacle peu à peu a rejoint des salles noires en fait, des black box ou des théâtres. Qui permettent de mettre en scène, qui permettent d'inviter la lumière. Au départ, la lumière était là pour des raisons pratiques, donc c'était des petites bougies qui étaient sur le devant de la scène. Et puis la lumière est devenue un spectacle à part entière. Et c'est ce qu'on démontre en fait avec ce temps central qui présente un spectacle de 25 minutes. Qui est créé par un duo d'artistes allemands qui s'appelle Christopher Boder et Robert Henke. Et ces artistes, ils mettent en abîme, ils mettent en lévitation un vaisseau de lumière qui est extrêmement spectaculaire, qui est accompagné d'une création sonore qui est diffusée en 6 points. Donc on est vraiment entouré par le son. Et ce vaisseau donc nous amène sur un imaginaire de science-fiction. Enfin, on pense au film de Denis Villeneuve ou à tout l'imaginaire de Star Wars pour les plus jeunes. Et c'est vrai que il y a une déconnexion totale à ce moment-là. C'est un spectacle qu'on peut voir debout ou allongé pour changer aussi de perspective et se laisser donc attraper par ce spectacle total en fait qui est complètement nouveau, innovant et très poétique.
Oui, il y a un peu plus de 90 triangles suspendus hein, au-dessus de nous, animés en temps réel, je pense avec des moteurs.
Il y a 32 triangles et 3 triangles et 96 moteurs. Ces triangles en fait, ils sont pilotés par des moteurs cinétiques qui leur donne en fait des formes très très variées. Donc c'est une sculpture vivante en fait qui est en 4D. Donc on amène là un moment de cinéma en 4D en fait qui est complètement stupéfiant.
Oui, et d'ailleurs, oui, c'est ça, on peut comparer ça à un espèce de vaisseau spatial. Hein, on parlait de rencontre du troisième type.
On est dans ces imaginaires, en fait, très forts. On est dans des formes très physiques, parce que c'est la lumière, si on lui donne pas, si on l'invite pas sur une matérialité de néon, de fil de LED ou de rayon, en fait, on la voit pas. Donc, en fait, là, il met une incarnation extrêmement concrète, mais ces tubes de LED sont mis en lévitation par ces moteurs. Donc c'est très beau, c'est très doux, et on s'aperçoit que le public qui vient là maintenant depuis quelques semaines est fasciné. En ouvrant la porte juste après, on a un grand chapitre sur la couleur. La couleur étant une expression de la lumière. La couleur, c'est un prisme, en fait. C'est une onde qui génère, en fait, une colorimétrie. Cette couleur, elle envahit l'espace. Donc, c'est vrai que la première partie de l'exposition, elle est très monochrome. On est sur des lumières blanches, dorées, des blancs chauds et des blancs froids. La couleur, elle naît au moment du spectacle, donc avec ce vaisseau dont on parlait, l'installation grid. Et puis, la couleur, elle devient ludique, elle devient sucrée, elle devient inspirante, elle devient complètement féerique en fait. Et donc là, on retrouve le studio hollandais, Children of the Light, qui offre un fil de lumière de plusieurs dizaines de mètres de long. Et ce fil, en fait, c'est une spirale infinie qui amène 300 séquences de lumière. C'est des séquences qui sont colorées, c'est des séquences qui sont hyper ludique en fait. Donc vous avez un moment de très grands circuits automobiles réinventés ou de très grands sucres d'orge en fait colorés. Donc c'est assez époustouflant. C'est une œuvre qui a été sculptée in situ à la Villette dans l'espace de la Grande Halle qui fait partie intégrante de ce voyage. La Grande Halle est vraiment une des composantes en fait extrêmement fortes de cette expérience. Et ensuite, on a trois petites œuvres qui sont plus comme un cabinet de curiosité, qui amènent des supports lumière différents, des supports laser avec 1024 architecture. On a un visual system qui amène un lit qui fait décoller. En fait, on s'allonge sur un mobilier et au-dessus de ce lit, en fait, il y a un système LED en fait qui est très cinétique. Qui vraiment vous aspire en fait visuellement pendant 8 minutes. Et ensuite on a Jacqueline Haine qui offre un soleil très disco en fait. On a un premier soleil en ouverture avec Guillaume Marmin sur le chapitre du ciel. Et puis on retrouve le soleil là avec un soleil qui est facetté. C'est un soleil qui est festif, qui est inspirant, qui pose l'espace. Y a un sable bleu, donc on peut enlever ses chaussures et on peut se mettre les pieds dans le sable. Et je crois qu'on a peut-être le plus beau bac à sable en fait de Paris au cœur d'Into the Light, parce que c'est un moment de rayonnement festif, très pop, très ludique. Donc là, on a vraiment ce chapitre couleur qui nous fait rejoindre le dernier temps de l'exposition qu'on a appelé Playlight. C'est vraiment une lumière qui vous fait jouer, c'est une lumière qui fait plaisir, c'est une lumière qui fédère, qui fait du bien. Donc on a des installations monumentales, là. On est vraiment sous la grande nef de la Grande Halle. Et là, on a un nuage sidérant qui est sculpté par un studio italien qui s'appelle Quiet Ensemble. Et Quiet Ensemble, ils ont créé un méga nuage, en fait, qui est sculpté par la lumière laser. Donc là, on a ce vortex qui est très joli. Et ensuite, en redescendant dans l'agora finale, on a trois œuvres. Deux œuvres du collectif Scale qui ont créé des objets qui vivent en musique. C'est des objets qui ont été créés pour certains à partir d'une composition musicale, donc l'une de Lucien Tunès et l'autre qui invite, donc c'est un énorme tourbillon de barres de LED qui s'appelle Nautilus et qui est mis en lévitation par différents artistes compositeurs. Ce Nautilus, en fait, on voulait au départ rethéâtraliser le kiosque de la place du village. On voulait sublimer la lumière qui rassemble, qui réunit. Donc on peut penser au feu de camp de l'époque, au feu d'artifice évidemment, et puis on peut penser aux fêtes foraines, à tous les imaginaires en fait où la lumière est là pour offrir du plaisir en fait. Donc il y a ce moment qui est très frais et c'est un peu le point final en fait de ce voyage. Et on a un dernier petit moment de voyage de mise en abîme en traversant le conteneur maritime qui est sculpté et organisé par l'artiste Guillaume Marmin. C'est une œuvre qui s'appelle Passenger et qui se pose là à la toute fin de ce parcours. Et c'est un conteneur qui est une œuvre qui a déjà fait le tour du monde et qui s'arrête donc à Into the Light pour offrir une réunion de lumière en fait. Qui est très simple et très inspirante.
Oui, et d'ailleurs, le public est invité à traverser cette œuvre.
Exactement. En fait, le public, il est actif quasiment sur toutes les œuvres. C'est pas une exposition qui est passive. En fait, la lumière, elle vient vous toucher, elle vous invite à différentes postures pour avoir un nouveau regard. Et c'est vrai que on vous invite à vous allonger, on vous invite à vous mettre les pieds dans le sable, on vous invite à traverser les heures. Et c'est vrai que du coup la question de l'image, la question de la dimension photographique, elle est redoutable en fait. Elle est très efficace et elle parle à tous les âges. On s'aperçoit que les enfants sont ravis par ces différents théâtres en fait qui sont inspirants. Les experts le sont tout autant, je pense au monde de l'art, au monde des créateurs, et le grand public en fait s'approprie les différentes facettes du projet par leur propre regard en fait. La lumière, c'est aussi la vue, et on offre des regards nouveaux, différents, étonnants, et c'est vrai que ce voyage vous permet d'avoir une déconnexion très forte pendant 1h30. Oui. C'est un voyage qui dure à peu près 1h30 comme un film de cinéma.
Oui, je rappelle. Donc, c'est Into the Light à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 31 août. Tous les jours, sauf le mardi de 10h à 19h. On est au summum des installations numériques, des installations sonores, de la technologie, hein, c'est ça. Hein. Vous dirigez Tétro, un mot hein, pour conclure, depuis une quinzaine d'années. C'est une agence de création lumineuse, hein, à grand spectacle. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes entre le spectacle et l'événementiel?
Oui, Tétro, c'est une agence qui accompagne des clients par la création d'événements. Mais tous nos événements sont spectaculaires. Donc, c'est vraiment ce qui nous fait être différents. Et puis, on accompagne, on provoque des créations artistiques depuis 15 ans. Ça nous a permis de rencontrer une scène de créateurs européens qu'on a voulu réunir à Paris pour Into the Light. Donc, c'est vrai que c'est l'histoire de Tétro qui permet cette exposition monumentale. Tétro a fait des créations sur tous les continents. Donc, on a beaucoup produit en Chine, on a beaucoup produit dans toute l'Europe, au Canada et ailleurs. Et puis, on a eu un projet monumental à Londres où on a accompagné le groupe ABBA. Et pour ABBA, donc, qui a été à l'initiative d'un projet extraordinaire qui s'appelle ABBA Voyage. C'est un spectacle d'avatar, donc c'est les 4 ABBA qui ont été numérisés. Et ce spectacle, donc on l'a accompagné sur toute la question lumière en fait. Donc c'est un projet qui joue encore à Londres depuis bientôt 3 ans, et qui va continuer à rayonner à Londres. Donc pour nous, ça a été un changement très important dans notre capacité à mettre en scène des très grands artistes et des très grands projets. Et puis à partir de là, ça a provoqué aussi l'envie de partenaires français. Et je pense à Filmalac Entertainment et Encore Production, avec qui donc on coproduit Into the Light à Paris. Donc c'est aussi un projet d'entreprise et d'entrepreneurs qui ont eu le courage de m'accompagner et l'envie de m'accompagner pour réaliser cette épopée de lumière à Paris pour la première fois, parce que c'est un projet qui naît à Paris et ce projet sera amené à tourner dans différents territoires après la France.
Merci beaucoup, merci. Donc c'est Into the Light à la Grande Halle de la Villette jusqu'au 31 août. Merci Mathieu Debay pour ces explications très intéressantes.
Merci beaucoup.
Bonsoir. Vous êtes toujours sur IDFM Radio. Nous venons d'entendre Aux enfants de la chance de Serge Gainsbourg. Et je me dirige maintenant côté théâtre avec la fameuse comédie The Loop. Je reçois Stanislas Perrin. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, succès formidable pour The Loop. Un Molière.
Ah, oui.
Molière de la meilleure comédie, Stanislas.
Ouais, c'est ça, exactement. On est très heureux. On peut pas dire qu'on s'y attendait pas, mais on l'espérait beaucoup. Et voilà, c'est tombé.
Ouais, c'est tombé il y a quelques jours. The Loop, la boucle. C'est au Théâtre des Béliers à Paris, 14 rue Saint-Isaure, dans le 18e jusqu'au 22 juin. Donc, chers auditeurs, vous avez le temps, mais la pièce est archi-full. Hein. Donc, tentez quand même votre chance. C'est une fameuse comédie tonitruante. Voilà, qui remporte un succès fou. Vous interprétez le rôle de l'inspecteur Douglas. C'est une bombe de loufoquerie, hein, remplie de quiproquos, jeux de mots, humour décalé. Pff, le rythme est bourrifant. Hein. En plus de ça, la pièce se rejoue. Enfin, on va dire le quiproquo se rejoue 3 fois. Mais à chaque fois avec une petite modification qui va tout perturber.
Exactement.
Comment l'auteur Robin, attention, Robin Goupil, à ne pas confondre avec Romain.
Oui, oui.
Robin, tout jeune auteur, comment a-t-il eu l'idée de cette pièce?
C'est une envie qu'il avait depuis un petit moment de travailler sur l'effet papillon. Il y a eu cette idée-là à un moment donné, ce concept-là, il y a un livre à la base et un film autour du fait que si on changeait un tout petit détail, si on tournait à droite ou à gauche de la rue, qu'est-ce qui se passerait sur notre destin? Et il avait cette idée-là pour de mettre ça au théâtre. Et puis après, le pied peint, c'est l'Amérique, et puis il aime bien se moquer un peu de ce grand pays où c'est un peu la capitale du n'importe quoi, des grands excès, quoi, des grands contrats.
Ouais, c'est un peu.
Et on l'avait déjà sur la pièce d'avant, de limite. Donc il aime beaucoup parodier toute cette culture américaine.
Oui, c'est donc, finalement une parodie des vieux films des années 80.
Ouais, avec la voix française, la mauvaise voix française de cette époque-là, quoi. Ouais.
Film d'action. Alors ce spectacle, c'est un formidable terrain de jeu pour vous. Pour vous, acteurs, c'est jubilatoire, non, de jouer là?
Ouais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel déjà par tout le processus de travail, c'est qu'on a vraiment travaillé presque sur une année de manière éparse. Ils avaient déjà fait une petite version d'une demi-heure de la pièce aux capsules au Théâtre Pic. Et après, pendant toute l'année, il y a un rôle qui s'est rajouté, le rôle de l'avocate. Donc il fallait passer d'une demi-heure de spectacle à 1h20. Il fallait tenir la promesse de l'humour, de la comédie, avec un personnage supplémentaire. Donc en fait, toute l'année, on s'est reconfronté au texte qui bougeait au fur et à mesure. Et puis surtout, quand tu pars un peu en improvisation, tu cherches des conneries à faire. Il faut les dispatcher sur ces trois parties là, ces trois loufoqueries. Donc c'est un bonheur on a pris part quand même à la comédie du spectacle, quoi. Mmh. Et puis après, quand on la joue, effectivement, d'avoir ces spectateurs qui rient de bon cœur comme ça, c'est une écriture chaque soir différente, quoi.
Oui, on rappelle le pitch. On est dans un commissariat au Colorado. Le lieutenant, la jeune lieutenant Carrie et vous-même sont supérieurs. Vous traitez une sale affaire de meurtre, d'interrogatoire, et voilà, il y a Mike, en effet, qui est présumé assassin, un jeune, le fils du maire d'ailleurs, odieux personnage, et tout part en vrille. Ce qui est étonnant, c'est que finalement, sur le plateau, il y a 2 pièces, mais tout coïncide très bien.
Oui, il a réussi à tout lier. Et puis il y a une belle progression, je pense, c'est là où le pari est tenu, c'est que sur ces 3 parties, on peut dès le départ se dire mon Dieu, mais quel, enfin, ne pas comprendre tout de suite l'humour de la pièce. Et puis il y a déjà, on expose la situation, et puis après sur les 2 autres parties, on peut se permettre une belle envolée, quoi.
Oui, et tout à fait. Et donc le personnage qui est quand même assez étonnant, c'est Carrie, qui au départ est très timorée, mm-hmm. Et puis finalement, à la fin.
Elle a une belle trajectoire. C'est sûr que elle a un beau terrain de jeu sur la fin. Il y a rien de plus jouissif que de pouvoir faire n'importe quoi dans un grand contrôle. Donc c'est merveilleux ce qu'elle fait.
Et alors vous, votre personnage, le l'inspecteur, hein, c'est ça?
Ouais.
Est-ce qu'il essaye vraiment d'arrêter la corruption?
Bah, il se bagarre. Après, bon, voilà, on est dans la parodie. Moi, j'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est, dans un désespoir de sa vie familiale. Il est à fond dans son métier au point de mettre sa vie de famille de côté. Et pour cause, à un moment donné, il va presque la perdre et tenter de la récupérer. Donc, il est à la fois bloqué dans son. En tout cas, moi, c'est le plaisir que j'ai de jouer ce personnage, c'est qu'il est bloqué dans son rôle de gros shérif à gros bras, presque détestable à cet endroit-là. Et il y a des endroits de jeu qui me permettent, moi, de montrer de la douceur de ce personnage, et qu'il est juste dans un mimétisme et dans une, voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui se mettent dans un personnage viril et qui, au fond d'eux-mêmes, n'accepte pas la douceur.
Oui, il y a le rôle de l'avocate, interprétée par Aurélie, Aurélie Bouquin, ouais. maître Beaver. Alors ouais. Elle, c'est une avocate véreuse, assez perchée.
Mm-hmm.
Elle n'a peur de rien, n'est-ce pas?
Ah bah, elle a peur de rien. C'est elle qui mène la danse. Elle est dans toutes les combines du maire. C'est la magouilleuse, quoi. C'est la plus grande méchante de tous. Parce qu'elle survit, aux échecs de tous les grands méchants. Et puis, elle a une partition aussi merveilleuse, quoi.
Alors, au niveau de la mise en scène, Stanislas, très astucieuse, d'un côté la salle d'interrogatoire, de l'autre le commissariat, le tout avec des allées et venues entre les deux lieux, et finalement, les deux espaces se mélangent pas.
Ouais.
Ne se mélange pas. Voilà. À quoi est-ce dû? Est-ce dû au mobilier, aux cloisons?
Les deux espaces se mélangent pas. Bah, c'est pour déjà pour créer deux ambiances purement différentes, quoi. L'endroit de la salle interrogatoire et puis le bureau avec tout ça séparé par une vitre.
Oui, c'est ça, une cloison. Mmh.
Et puis après, bah, il y a le plaisir de pouvoir aussi casser tout ça au fur et à mesure. Il y a les arêtes, c'est assez bien dessiné, assez volumineux, quoi, à certains endroits. Mais après, il y a le plaisir aussi de jouer c'est une sorte de parti pris. On imagine la porte, on a des petits bruitages, on fait comme si on appuyait sur des boutons, et ça nous permet à la fin de pouvoir tout casser et de faire surtout aussi de faire confiance à l'imaginaire du spectateur. On dessine des arêtes et puis à un endroit ils peuvent peindre ce qu'ils veulent. Quoi.
Oui, alors il y a les jeux de mots, hein. Les jeux de mots. J'en ai retenu quelques-uns. Il est aigre, Doug.
Aigre, Doug. Ouais. Bah ça c'est des, ça c'est des trouvailles de loge. Voilà. On se maltraite le texte à plein de moments. On se fait des blagues et puis bah des fois il y a des pépites. Mm-hmm. Comme ça.
Échec et Mike.
Ah oui, voilà. Ouais.
Très bien. Il y a aussi quelques références contemporaines dans la pièce. Hein.
Mm-hmm.
Vous en avez une en tête, peut-être?
Oula. Une référence contemporaine.
Peut-être au cinéma. Voilà, au cinéma. On en a parlé tout à l'heure.
Il faut que je me fasse tout le texte.
Oui, écoutez, moi j'invite, de toute façon, j'invite nos auditeurs à aller voir la pièce. Un mot pour conclure sur votre parcours. Donc l'an dernier, en 2023, vous aviez joué dans une pièce de Robin Goupil, Nos ouais. Limites. Votre parcours est vraiment éclectique. Hein. Vous avez joué à La Colline, au Petit Saint-Martin, sous la direction également d'Anne Delbé, hein, pour oui. Andromaque. Vous êtes réalisateur également.
Ouais, j'y travaille.
Ouais. Et vous avez un projet peut-être après The Loop?
Oui, alors je travaille avec Simon Falguière depuis plus de 10 ans. On avait fait un spectacle de 13 heures de la sortie de l'école et puis on a mis 10 ans à le monter. Et là, il fait une nouvelle création au théâtre de Toulouse, au théâtre de la Cité, et puis on joue à Nanterre à Mondi dans un an.
Quelle pièce, excusez-moi, j'ai pas entendu.
La pièce, elle s'appelle, pour le moment, c'est le livre de Kafka. Mais c'est autour de Kafka, c'est une écriture originale. Nous, on avait fait le Nid de cendre ensemble il y a quelques années, qui durait 13 heures. Les étoiles aussi. Et donc ça, c'est le prochain projet de théâtre que j'ai.
Très
et puis
bien.
J'écris un nouveau film là aussi.
Bon ben, parfait. Ben merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est Stanislas d'avoir répondu à cette interview. Je rappelle, c'est donc The Loop au Théâtre des Béliers parisiens dans le 18e jusqu'au mois de juin. On cite les comédiens, hein, donc Aurélie Bocquian, Tristan Cotin,
Juliette Dali,
Stanislas Perrin, et le texte et la mise en scène de Robin Goupil. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Bonne soirée, au revoir.
Bonne soirée. Eh bien, chers auditeurs, vous êtes toujours donc sur IDFM Radio. Toute la culture que j'aime prend fin. Vous retrouverez le 9 mai Marie-Laure, et pour ma part, ce sera le 16 mai. Bonne soirée.